RCF.
C'est le printemps et la nature est magnifique, les fleurs agrémentent nos paysages. Une période où sortent de nombreux insectes et bien sûr nos amis les abeilles. Et aujourd'hui, Planète Science a la chance de rencontrer André Héritier, qui est chargé de communication du syndicat des apiculteurs Loire, ainsi que Marie-Louise Kevin, chargée de mission pour la biodiversité à la FRAPNA Loire. Bonjour André Héritier, bonjour Marie-Louise Kevin.
Oui, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, on va commencer par André Héritier, parce que je voudrais vous faire parler d'un phénomène actuel qu'on peut voir, si on a de la chance, c'est l'essaimage des abeilles.
C'est vrai qu'il y a une semaine de cela, déjà, il y avait des essaimages. Quand on a ouvert nos ruches pour la visite de printemps, il y avait énormément des amorces de rennes, c'est-à-dire que déjà, elles envisageaient de partir.
Alors, il faut nous expliquer ce que c'est que l'essaimage. On sait que les ruches, de temps en temps, essaiment. Qu'est-ce que ça représente?
En fait, c'est une nouvelle naissance. C'est à un certain moment, les abeilles décident de se cacher un peu de la reine existante et de fabriquer une nouvelle reine. À partir d'une larve, elles vont la nourrir exclusivement de gelée royale, ce qui va donner une, deux ou trois reines, ça dépend. De toute façon, la première qui va naître, son premier travail, ça va être de supprimer les autres, de manière à ce qu'elle soit la reine, qu'elle soit la seule.
Ça se pratiquait dans la royauté chez nous. On aimait bien zigouiller les petits frères.
C'est ça, et donc cette reine va à peu près partir avec la moitié de... C'est souvent la vieille reine qui s'en va, avant d'être détruite. Elle s'en va avec à peu près la moitié de l'essaim. Et ça va donner donc une nouvelle naissance parce que les apiculteurs après peuvent gérer ça lorsque on peut les récupérer. Mais normalement, l'essaim est un bien particulier, c'est-à-dire que si l'apiculteur de la ruche où il y a un essaimage voit l'essaim partir, il peut le poursuivre autant qu'il veut.
On considère que c'est à lui.
C'est à lui. La loi dit cela.
Bon, ça c'est une question légale. Oui. Par contre, ma question, ça serait, qu'est-ce qui déclenche cet essaimage? C'est la température? C'est les fleurs?
Non, c'est certainement... alors, il y a beaucoup de théories et d'explications. C'est souvent parce que la reine commence à être faible. Une reine, ça dure à peu près 4 ans.
Quelques années, oui.
4 ans, 3-4 ans, voire 5 parfois. Mais maintenant, les apiculteurs ont pris des habitudes. Et quand elles sont trop âgées, ils les détruisent de manière à réintroduire une reine d'élevage. Personnellement, j'ai jamais fait ça. Mais le problème, c'est que les deux premières années, les reines pondent énormément. Elles arrivent jusqu'à en pleine saison.
Donc elles font beaucoup d'abeilles?
Oui, 2000 jours.
Ah oui, ça fait beaucoup, oui, ouais. Ça fait du monde.
Et donc, quand ça baisse, automatiquement, la sauvegarde de l'essaim est en question. Et donc, le taux de phéromones baisse. Et les abeilles décident, un groupe d'abeilles décide de faire sécession.
Bon, elles font sécession, donc elles partent, mais elles partent, elles ne savent pas où elles vont.
Si, en général, elles envoient certaines abeilles vont prospecter.
Explorer.
Oui, prospecter de manière à trouver un endroit qui convienne. Elles vont emmener la reine qui choisit ou pas de rester. Et en fait, elles deviennent totalement inoffensives. Alors, c'est très impressionnant parce que ça fait une espèce de nuage de 1 mètre 50 environ. Sur une hauteur de 1 mètre. Ouais, c'est très impressionnant.
Donc, il y a quelques milliers d'abeilles qui partent.
Ah oui, oui. Oui, oui automatiquement, il y a 15 000.
Oui, mais c'est déjà pas mal.
On dit entre 15 et 20 000. C'est complètement inoffensif parce qu'elles n'ont rien à protéger. Les abeilles piquent pour protéger leurs biens. Mais quand il n'y a rien à protéger, et donc elles vont aller créer une colonie, elles vont aller s'installer.
Alors moi j'ai vu ça une fois, les abeilles elles se posent, entre autres c'était sur une branche de pin, hein. Mais on a l'impression qu'elles sont un peu perdues, quoi. Elles vont pas nicher là, elles vont pas s'installer là.
Non, elles vont trouver un endroit meilleur, mais en fonction de l'âge de la reine, elles vont plus ou moins loin. Si la reine est très âgée, elles vont pas aller très loin. mais elles vont chercher un endroit. C'est pour ça que nous piégeons l'environnement de nos ruches en mettant des ruchettes où on laisse un rayon de miel. Et donc, souvent, elle trouve.
Alors, cette ruchette, vous la mettez à quelques centaines de mètres de la ruche,
oui,
dans l'espoir que le nouvel essaim vienne se poser dedans.
C'est ça. Puis, comme nous y mettons du miel, elles savent le trouver. Et en général, elles passent toujours aux mêmes endroits. Je connais quelqu'un dans la région de Haute-Loire, Clavas. C'est un vieil apiculteur. Systématiquement, il a un chemin qu'il suit où il met une, deux ruches, trois ruches, et toutes les années, il piège des essaims.
Eh ben, c'est très intéressant.
RCF, la joie se partage.
C'est pour parler de ruches, d'essaimage, que nous rencontrons André Rey, héritier du syndicat des apiculteurs Loire, ainsi que Marie-Louise Kevin, chargée de mission à la Frapna Loire. Alors, on continue sur l'essaimage. Donc, cet essaimage, il laisse aussi une ruche orpheline ?
Non, parce qu'elles ont réussi à fabriquer une autre reine.
Une autre reine.
Et donc, c'est un nouveau départ. Elles vont coloniser. Et comme c'est une nouvelle reine, elle va être fécondée. Et donc, elle va produire d'autres abeilles.
André Héritier, ça veut dire, si on en voit, ça veut dire que les ruches se multiplient. Et à l'heure actuelle, on entend parler du phénomène inverse, la destruction, la disparition des abeilles.
Oui, mais c'est rien. L'essaimage n'est rien par rapport à l'impact de la pollution. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que l'abeille qui est en danger dans ce monde. Tous les pollinisateurs
sont en danger.
Ouais.
Alors, nous avons justement Marie-Louise Kevin qui est là, de la Frapna Loire, le spécialiste. Il m'a dit qu'il ne savait rien, mais il sait aussi tout sur les problèmes de pollinisation. On entend beaucoup parler donc du déclin des ruches, de problèmes de pollinisation. Alors, qu'en est-il? Que dit la Frapna et que dites-vous?
Alors, en fait, le problème, c'est que quand on parle pollinisation, tout le monde va penser uniquement abeilles et notamment abeilles domestiques. Parce que voilà, c'est évidemment celle qu'on voit le plus, dont on parle le plus et celle qu'on connaît le mieux. Mais il existe énormément d'autres espèces pollinisatrices. Rien qu'au sein du groupe des abeilles, on a près de 1000 espèces sauvages en France, donc ce qui est énorme, 2000 en Europe et 20 000 dans le monde. Donc c'est pour dire que rien qu'au sein des abeilles, on a déjà énormément de variétés d'abeilles sauvages qui vont être pour la plupart solitaires, donc qui vont pas produire de miel, contrairement à l'abeille domestique, et du coup qui vont pas avoir de ressources à défendre, donc qui vont être totalement inoffensifs pour l'homme et qui vont du coup assurer un rôle de pollinisation vraiment très important au niveau des fleurs. Donc ça, c'est pour les abeilles, mais au sein des hyménoptères, on a d'autres. Alors, les hyménoptères, hein, c'est le groupe des abeilles, des frelons, des guêpes, des fourmis. On a d'autres pollinisateurs. Les fourmis sont également des pollinisateurs, ça, on ne le sait pas.
Ah non, les fourmis, mais par les fourmis volantes
Pas que, non. Par les fourmis terrestres également.
Simplement en fait, parce qu'elles vont se promener.
Voilà, elles vont se promener au sein des fleurs et disséminer un petit peu le pollen en se nourrissant du nectar des fleurs. Mais c'est évidemment un rôle vraiment moindre par rapport aux abeilles. Par contre, on a d'autres petits insectes qu'on méconnaît, qu'on appelle les diptères. Donc, diptères, c'est juste deux ailes qui vont leur permettre en fait de faire du vol stationnaire, contrairement aux abeilles qui vont pas pouvoir faire ce petit vol-là. Et les diptères, elles vont avoir des colorations similaires aux abeilles également, donc des colorations jaunes et noires, ce qui on peut faire penser à des abeilles ou à des guêpes. Et elles jouent un rôle extrêmement important dans la pollinisation. On recense à peu près 8000 espèces en France, donc ce qui est vraiment important sur le territoire.
Est-ce que c'est plus important que les abeilles? Parce que on voit des endroits où il n'y a pas beaucoup d'abeilles, donc la pollinisation, elle se fait par autre chose.
Voilà, exactement. En fait, comme dans tout le royaume naturel, si je puis dire, on va avoir des spécialités. Donc les diptères vont être plus spécialisées dans les petites fleurs, parce qu'elles ont une taille beaucoup plus petite, donc elles vont pouvoir accéder à des petites fleurs que les gros pollinisateurs comme les bourdons ou les grosses abeilles ne pourront pas aller chercher. Donc c'est un rôle, je dirais pas plus important, mais au moins équivalent à celui des abeilles et des bourdons.
Alors, quand on parle du danger de disparition des abeilles, pour les problèmes de pollinisation, ça concerne pas seulement les abeilles, ça concerne l'ensemble des insectes.
Exactement, parce que il y a beaucoup de menaces évidemment qui pèsent sur tous ces pollinisateurs-là. Ce sont évidemment les pesticides en premier plan, mais on a aussi la disparition d'habitat, la disparition des haies qui vont constituer à la fois un habitat et une source de nourriture pour de nombreux pollinisateurs. Parce que là, on a parlé des diptères et des hyménoptères, mais il y a également les coléoptères qui sont pollinisateurs, les papillons évidemment. Donc il y a vraiment toute une richesse qui est actuellement en déclin, menacée par les activités humaines qui se multiplient, se renforcent et détruisent le milieu naturel et l'habitat de ces espèces-là.
Tous ces insectes, en fait, ils viennent chercher du pollen essentiellement
ou du nectar.
Et en fait, ça peut être les deux.
Voilà, il y a des espèces qui vont chercher les deux. Il y a des espèces qui vont se nourrir essentiellement de pollen et d'autres espèces qui vont se nourrir essentiellement de nectar. Comme les papillons, par exemple.
Est-ce qu'il y a des insectes qui sont spécialisés sur tel ou tel type de plantes,
oui,
de fleurs?
Oui, complètement. Enfin, la pollinisation, c'est vraiment un miracle de la nature, faut le dire. Ça fait des millions d'années que ça existe. Et en fait, il y a énormément de stratégies différentes qui vont s'établir entre les plantes hôtes et du coup les pollinisateurs. On ne peut pas parler vraiment de symbiose, parce que dans l'état actuel des connaissances, on pense plutôt qu'il s'agirait d'un mutualisme, c'est-à-dire que les végétaux sont plus intelligents que les abeilles et profitent des abeilles en leur procurant du nectar et en leur libérant en fait du pollen qui va s'accrocher à leurs poils pour que ça puisse après aller polliniser une autre plante et féconder une autre plante. Donc elles se servent un petit peu des abeilles et des pollinisateurs, mais il y a vraiment une harmonie qui se fait entre le végétal et l'animal.
Dernière question, il y a des fleurs qui sont auto-fécondes et d'autres qui ne le sont pas, non ?
Tout à fait.
C'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que le rôle des pollinisateurs est très important dans notre société, mais il y a évidemment des fleurs des aliments, des céréales
qui vont pouvoir se féconder facilement
et du coup qui n'auront pas besoin des pollinisateurs. C'est le cas notamment de la majorité des céréales comme le blé, le maïs, etc.
Oh, tant mieux, parce que comme ça on aura quelque chose à manger.
Oui, il y aura toujours quelque chose à manger, mais il y aura beaucoup moins de variétés parce que tout ce qui est cucurbitacées, tout ce qui est les arbres fruitiers évidemment, celle-là c'est essentiel d'avoir les pollinisateurs pour assurer la reproduction de ces végétaux-là.
Bon, eh ben espérons qu'on fera les efforts qu'il faut pour qu'on garde une biodiversité des insectes et des pollinisateurs qui assurent l'avenir de ces espèces, mais aussi la nôtre au passage.
Exactement, exactement.
Merci encore, André Héritier et Kevin.
Merci à vous. Merci.